Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de votre fidélité. Fait majeur sans doute de l'année qui s'achève, la détérioration des relations sino-américaines venue marquer une véritable rupture après plusieurs décennies de développement économique au cours desquelles on a pu espérer que les conflits entre grandes puissances n'étaient plus inéluctables. Signe d'apaisement ou mesure de précaution après les résultats en demi-teinte pour Donald Trump lors des élections américaines de mi-mandat, en Argentine, en marge du sommet du G20, Pékin et Washington ont signé une trêve de 90 jours dans le conflit commercial qui les oppose. Les deux grands mondiaux se sont engagés à ne pas s'imposer de nouveaux droits de douane pendant 3 mois, le temps de négocier un accord sur le commerce. Une nouvelle qui, tout en suscitant des réserves aux États-Unis, devrait rassurer les marchés. Donald Trump ayant menacé, en l'absence d'accord, de taxer la totalité des importations chinoises. Partant de cette tension sino-américaine qui n'en continue pas moins de prévaloir, partant aussi de l'évolution dans la relation transatlantique, nous avons voulu comprendre ce qui se passe en Europe en lien avec la Chine, une Chine qui y est omniprésente avec ses marchandises et bientôt ses services. Les technologies de pointe européennes sont déjà la cible des investissements chinois, sans compter l'influence des réseaux de Pékin qui visent les décideurs européens, politiques, hauts fonctionnaires, intermédiaires d'affaires, universitaires. Regard sur les défis que pose la Chine aux Européens avec nos invités. François Godemont, historien, professeur des universités à Sciences Po, directeur du programme Chine du think tank European Council on Foreign Relations et co-auteur avec Abigail Vasselier de La Chine à nos portes, une stratégie pour l'Europe aux éditions Odile Jacob. Bonjour.
Bonjour.
Et Jean-François Dimilio, président d'Asia Centre et directeur de la publication d'Asia Trends, dont le dernier numéro se penche sur les dynamiques et tensions commerciales en Asie. Bonjour.
Bonjour.
La tension entre les États-Unis et la Chine qui prévaut depuis l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche. Certains experts ne l'attribuent pas à la rivalité commerciale entre les deux pays, mais au constat fait par les États-Unis de la supériorité de la Chine sur le plan technologique. Quel est votre avis à l'un et l'autre sur cette question, François Godemont ?
Les deux, madame, évidemment. Et même au-delà. La Chine a commencé à réémerger, on peut dire, après la mort de Mao, avec le début des réformes en 78. Et pendant longtemps, c'est la maxime attribuée à Deng Xiaoping qui lui fait dire « Pour vivre heureux, vivons cachés, en gros. Développons-nous sans faire de tapage » qui a prévalu. Après, la Chine a hésité. Est-ce que ça allait être une montée pacifique ou un développement pacifique ? Elle continue à dire « C'est un développement pacifique ». Et puis avec l'arrivée de Xi Jinping, les choses se sont précisées. C'est une montée dans tous les domaines, c'est une affirmation. C'est l'aboutissement d'une longue course aux armements chinoises qui l'amène désormais à dépasser tous les voisins en Asie. Et c'est une inquiétude américaine très grande parce que nous avons vécu avec le modèle de l'économie de marché qui dépasse tous les concurrents, si vous voulez, qui est mieux armé. Et aujourd'hui, on a une Chine prussienne, mercantiliste, industrialiste, nationaliste, protectionniste pour elle-même dans une certaine mesure et qui est en train de faire jeu égal avec les États-Unis dans certains domaines et qui veut continuer. Voilà, je crois, le résumé.
Jean-François Dimilio.
Oui, les deux ou les trois, sur le commerce purement et simplement. Trump a choisi de raisonner de façon simple et donc il a utilisé en première ligne l'argument du commerce parce que son électeur comprend l'argument du commerce. Il est évident que la relation, elle est complexe. Il y a le commerce, il y a aussi les revenus des investissements américains en Chine et donc si on voulait faire un tableau général, il serait pas aussi simple que le pur déficit commercial américain vis-à-vis de la Chine. Mais ça marche bien parce que l'électeur comprend. Mais au-delà de ça, bien sûr, il y a deux autres niveaux. Il y a la guerre technologique, le plan 2025 chinois qui a clairement comme objectif ce que François Godemont a décrit, c'est-à-dire atteindre un niveau de suprématie assez vite avec un objectif de temps. Et l'objectif de Trump, c'est de ralentir par tous les moyens possibles dans le court terme ce plan 2025. Et puis, il y a aussi une dimension géopolitique. Il y a deux concepts qui s'affrontent. La route de la soie, ça a probablement une réponse à ce que les Chinois ont vu comme une arme qui était dirigée contre eux, c'était le TPP d'Obama.
Le traité transpacifique.
Voilà, transpacifique. Donc le libre-échange dirigé contre la Chine, avec des pays qui étaient autour de la Chine, de le Pacifique, mais qui n'étaient pas la Chine. En face de ça, elle joue la carte du continental. Pas seulement le continental, parce que la route de la soie, c'est continental et maritime. Elle joue la carte du contournement. Et c'est là que l'Europe est très importante. On a le Pacifique d'un côté, on a l'Europe de l'autre. Et puis, voyant ça, eh bien, Trump réalise les objectifs géopolitiques de la Chine, et il va probablement s'équiper, au-delà même de la lutte sur la technologie, d'un plan géopolitique. Alors c'est attribuer peut-être beaucoup d'intentions à Trump, qui est avant tout un pragmatique, qui n'a peut-être pas des objectifs à aussi long terme que la Chine, mais dont on ne peut pas exclure qu'il ait vu tout ça assez tôt, contrairement à ce que souvent l'opinion française a dit au moment de l'élection de Trump, à savoir que bien sûr, on est tous d'accord, ce serait peut-être une chance pour l'Europe, parce qu'il allait affaiblir les États-Unis, mais que c'était avant tout l'affaiblissement des États-Unis.
Alors cette trêve de 3 mois, quelle est l'idée, François Godman, gagner du temps ?
D'abord, il y a 2 interprétations différentes officielles. Si on lit les communiqués, si on lit le communiqué américain, la Chine s'engage pratiquement à bouleverser son économie dans les 3 mois et à la mettre en conformité avec les règles du jeu de l'économie libérale, propriété intellectuelle, transfert de technologie.
C'est court, 3 mois pour faire autant de choses.
Bien sûr. Et les États-Unis expliquent aussi qu'elle va devoir supprimer les surtaxes supplémentaires qui étaient en place et sans qu'il y ait d'engagement américain, en tous les cas dans le communiqué. Il y a même eu l'affirmation que la Chine s'était engagée en marge dans, non pas 1,2 milliard de dollars de contrats, il faut arriver à suivre les chiffres, mais 1200 milliards de dollars de contrats, ce qui paraît beaucoup. Bien sûr, c'est une litote. Et puis du côté chinois, ce qu'on dit, c'est on va répondre aux attentes, on va appliquer effectivement les résolutions du 19e congrès, ce qui est un petit peu moins affirmatif, si vous voulez, sur le degré d'ouverture. La seule chose qui est sûre, c'est que on ne voit pas Donald Trump reculer pour l'instant, et on voit Xi Jinping reculer un petit peu en parole, ce qui est déjà, si vous voulez, dans cet affrontement. Et pour un régime autoritaire où c'est jamais bon de perdre la face, où c'est jamais bon de montrer quand même qu'on est inquiet, si vous voulez, ça semble indiquer que la méthode Trump obtient des résultats verbaux, des résultats sur le papier. Je ne pense pas que l'administration Trump ait pour objectif d'obtenir 1200 milliards de dollars de contrats dans les 90 jours. Je ne pense pas qu'il se fasse des illusions sur la transformation de ce qu'est en gros le système État-parti qui gère l'économie. Toute la question, c'est jusqu'où la Chine recule et est-ce qu'elle est capable de faire un deal séparé avec les États-Unis, ce qui est beaucoup plus important pour nous, Européens. Il peut y avoir soit des mesures de libéralisation qui s'appliquent à tout le monde, soit il peut y avoir des cas d'espèce profitant à des entreprises américaines. Or, moi je regarde les 2 derniers mois, ces mois d'affrontement pas feutré du tout sur le commerce entre la Chine et les États-Unis. Et je constate que pendant ce temps-là, BMW et BASF ont obtenu d'acheter à 100% leur filiale chinoise ou de créer une entreprise à 100%. Pour BASF, c'est de l'ordre de 10 milliards de dollars.
Deux entreprises allemandes, on le précise.
Deux entreprises justement allemandes. Et les 2 sociétés d'assurance, Allianz et AXA, à 24 heures d'intervalle, ont obtenu le même droit de créer des succursales à 100%. Autrement dit, les sous-titres en bas de l'écran, c'est « Messieurs les Américains, on peut aussi accorder des avantages aux Européens. Je pense que nous avons mangé notre pain blanc et que si ces 90 jours marchent, on verra des résultats concrets en faveur des entreprises américaines, en faveur des importations. Et on aura évidemment, nous, un problème en tant qu'Européens parce qu'on sera entre les deux. »
Jean-François Dimelio, vous partagez.
Pour moi, les 90 jours, c'est avant tout the art of the deal. Ouais. C'est-à-dire qu'il est évident que pendant 90 jours, il ne va rien se passer. En revanche, on observe un vrai ralentissement de la croissance chinoise. Et dans 90 jours, si ce ralentissement se prolonge, il devrait être plus sensible. Donc dans 90 jours, on sera où ? On sera effectivement avec une Chine qui, si elle a déjà donné des signes de compromis, elle y sera d'autant plus prête, mais on n'aura certainement rien réalisé en 90 jours entre la Chine et les États-Unis. Il faut rappeler que c'est en avril que la cristallisation, d'une certaine façon, s'est passée au moment des négociations où finalement la délégation chinoise repart. Donc 90 jours, c'est un symbole. Il faut rappeler aussi que on a parlé de la position chinoise et de la position américaine. C'est verbal. Aujourd'hui, tout ce qui a été dit est verbal. Ils se sont quittés à Buenos Aires en disant oui, on s'est mis d'accord sur ces 90 jours. Donc c'est effectivement très léger. L'une des questions, c'est qui a vraiment envie d'une guerre commerciale? Je pense que la réponse, c'est aucun des deux. Simplement, on veut avoir le plus d'armes possible au moment où une forme de paix sera signée. Est-ce qu'on est capable de changer complètement la donne avec des partenaires chinois? Je pense que pas plus François Gaudement que moi sommes persuadés que c'est difficile de faire entrer la Chine telle qu'elle est aujourd'hui dans le schéma multilibéral, multipartite dans lequel l'Europe s'est mise. Bien sûr, apparemment, la Chine est l'ultime défenseur avec l'Europe du multipartisme. Mais c'est son interprétation à elle, et c'est pas forcément la même interprétation que la nôtre.
Alors, paix, guerre, en tout cas, ce que je voudrais comprendre, c'est cette tension entre les États-Unis et la Chine, qui prévaut depuis l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche. Quel type de signal cette tension envoie à l'Europe, et qu'est-ce que l'Europe peut en tirer de positif pour elle-même ? On voit bien que Donald Trump a une approche frontale sur le commerce. Est-ce que ça peut changer le face-à-face Chine-États-Unis, François Gaudement ?
Les tensions ont commencé avant l'arrivée de Donald Trump. En réalité, l'administration Obama s'est petit à petit rendue compte et rendue à l'évidence, tout en refusant d'en tirer les conséquences, parce qu'avant tout, il voulait éviter le conflit. C'était d'ailleurs l'état d'esprit de Barack Obama dans plusieurs cas, pas seulement face à la Chine. Donc, si vous voulez, la marée montait. Et on observe sur la Chine quelque chose qui ressemble presque à un consensus, sauf bien sûr sur la vache sacrée du libre-échange, pour lequel il reste des partisans, surtout dans la presse d'ailleurs, plus vocaux que dans les entreprises en réalité, c'est frappant, du libre-échange comme moyen de développement mondial. Mais le vent a tourné un peu parce que la Chine a continué à avancer, un peu parce qu'elle a très peu négocié en réalité. Est-ce que on arrive à un conflit plus profond, et qu'est-ce qui se passe pour l'Europe? Moi, je crois que les Européens ont une petite perspective, une moyenne perspective et aucune grande perspective. La petite perspective, c'est de se dire, se frotter les mains, il y a un dividende aux querelles entre Trump et la Chine, nous on va s'entendre avec la Chine, on est plus multilatéraux, on va être un peu plus flexible, et puis on n'aime pas de toute façon Donald Trump, et la Chine va nous récompenser. Ce que la Chine d'ailleurs sous-entend très fréquemment, c'est leur est tort de se priver de ce discours. Jusqu'ici, on n'en a pas vu les résultats à Bruxelles, et on voit même toujours la division des Européens. Elle existe en soi, mais elle est favorisée par la diplomatie chinoise. Le moyen dividende, c'est qu'après tout, la Chine se servait en technologie en Europe et en achat d'entreprises comme on se sert dans les rayons d'un supermarché, si vous voulez, profitant de ce qu'il n'y a pas sur les investissements en particulier. Une épine dorsale européenne, on n'est pas une fédération, on n'a pas, il n'y a pas le gouvernement fédéral, avec tout le respect qu'on doit à Bruxelles. Et là, les États-Unis eux-mêmes, le Japon, appellent l'Europe à une sorte d'union, de coordination sur ces thèmes pour freiner la manière dont la Chine s'empare des technologies, qu'elles soient illégales ou parfois légales avec ses surplus financiers. Donc là, il y a un peu une occasion, si vous voulez, mais il ne faut pas se faire d'illusions. L'administration américaine est avec nous sur ce point parce que ses intérêts convergent. À partir du moment où on entre dans des négociations et un résultat positif, ce sera de nouveau chacun pour soi. Donc, si vous voulez, ça n'empêche pas la nécessité pour les Européens de s'unir profondément, de trouver une stratégie commune et donc des compromis entre les 28. Ça serait de la grande stratégie, très franchement. On n'y est pas encore tout à fait, même si l'Europe a progressé.
Alors, on reviendra peut-être après sur le troisième. En tout cas, je voudrais rebondir sur cette question des investissements. Et je me tourne vers vous, Jean-François Dimelio. En 2017, 80% des acquisitions chinoises en Europe concernent des entreprises de haute technologie. Aux États-Unis, 0%. Car les autorités américaines bloquent les diverses tentatives. On sait que les Américains ont mis sur pied cette institution qui semble assez puissante, le CFIUS, qui veut dire The Committee on Foreign Investment in the United States, donc une commission sur les investissements étrangers aux États-Unis. Il y a, à la lecture de ces chiffres, on se pose la question de savoir comment l'Europe continue et en est là où elle en est aujourd'hui.
Oui,
c'est de la naïveté,
Il y a plusieurs choses. Je pense que la Chine n'est pas simplement le Main Street shopper qui va dans un supermarché et qui regarde les rayons. Je pense qu'il est plus comme un portfolio manager, si vous me permettez. C'est-à-dire qu'il fait une approche en gestion de portefeuille, on appelle ça du top-down. C'est-à-dire, on sait à peu près dans quel secteur on a besoin d'acheter, et ensuite on va voir où on va acheter. Bien sûr, le CFIUS est très puissant. Bien sûr, l'Europe est moins puissante. Mais la Chine continue d'acheter très curieusement, des ressources en matières premières aux États-Unis. Les États-Unis qui ont une force de frappe par rapport à la Chine, de façon générale, et qui vendent aussi d'ailleurs des ressources naturelles, qui exportent des matières premières à la Chine, ne voient pas d'inconvénient à ça, parce qu'ils savent qu'ils sont en position de force. La Chine vient en revanche sur les technologies européennes, bien sûr parce qu'il y en a, bien sûr parce que c'est ce qu'elle a choisi d'acheter ces temps-ci en Europe, donc c'est une décision stratégique. C'est
pas l'Europe n'a pas de matières premières.
Et l'Europe n'a pas de matières premières. Et par ailleurs, et là, il faut saluer effectivement le travail de François Gaudement pendant tout le temps où il aura été à l'ECFR, parce que on est quand même arrivé en novembre à un message européen qui nous dit oui, on va maintenant filtrer à la façon des Américains, probablement pas de façon aussi efficace, ces investissements dans la technologie. Mais naturellement, on en est loin, et l'intérêt commun entre les États-Unis et l'Europe, il est réel. Mais les États-Unis eux-mêmes jouent la division entre les Européens, puisque sur un sujet comme l'Iran en particulier, eh ben, ils sont allés se reporter sur l'Italie en disant, eh ben, vous, on vous aime bien, et donc, on vous dégage du bloc des 27, et donc, on vous donne une exemption au pétrole iranien. Donc, la collusion, si j'ose dire, avec les États-Unis, elle va être quand même très difficile à faire. Et moi, je pense que l'Europe insiste beaucoup trop, on est en train de le faire d'ailleurs nous-mêmes, sur ses faiblesses, et qu'en revanche, elle se comporte comme si la Chine avait déjà gagné. Je pense que dans le dialogue qu'on a avec la Chine, il faut aussi que l'on pointe du doigt les impasses dans lesquelles la Chine s'est mise et les forces dont l'Europe dispose. Je pense que c'est comme ça aussi qu'on enverra un message. On a parlé de la technologie, on a parlé de l'armement. La Chine n'est pas capable aujourd'hui de faire un moteur d'avion. En tout cas, un moteur d'avion de chasse, et bon, ça fait partie quand
mais
même, si vous n'êtes pas capable d'avoir cette filière.
Elle a été prise dans le sac par les États-Unis dans l'espionnage sur Safran.
Voilà. Donc, je pense que on a les moyens, simplement le discours ambiant est influencé, on va utiliser ce mot d'influence, ou en tout cas sous pression d'une espèce d'autoflagellation européenne. Pourquoi ? On va sûrement parler, mais c'est un des inhibiteurs de la position européenne aujourd'hui.
Alors, les Européens, on les voit tout de même réagir, commencer à réagir. La question de savoir si ça n'est pas trop tard, mais enfin, il n'est jamais trop tard. On le voit sur la question de la route de la soie. On voit l'Espagne dire non, on ne va pas signer. Sur cette société chinoise, Huawei, dont les bureaux sont exactement en face de ceux de Radio France Internationale, de l'autre côté de la Seine, à Boulogne, François Gaudement, où on voit donc les Français commencer à... opposer une certaine méfiance. Là, c'est un début de réaction. Et ce début de réaction est plutôt bienvenu, j'imagine. Mais comment vous... Quel regard vous portez cela?
D'abord, toutes les raquettes ont des trous. Jean-François Desmélio a raison. Aux États-Unis, par exemple, on a laissé la Chine investir massivement dans les start-up. Simplement parce que comme on ne sait pas ce que les start-up vont devenir, c'est assez difficile de les définir comme stratégiques ou comme militarisés. Et par ce biais, la Chine est très présente dans Silicon Valley, par exemple, pour pas se faire d'illusions. Oui, il y a un début de réaction européen. Oui, ça n'est pas fini, bien que ce qu'on appelle le trilogue, c'est-à-dire Conseil, Commission, Parlement, se soit mis d'accord. En 18 mois, ce qui est beaucoup pour l'Europe, c'est un record de vitesse. Il y a encore le Conseil des gouvernements européens qui doit ratifier cet accord. En principe, c'est une lettre à la poste. Dans ce cas-là, j'attends jusqu'au dernier moment, car les manœuvres que la Chine fait avec tel ou tel, et sa capacité financière, disons-le, même si elle l'utilise pas toujours, elle est là. Ce qui reste, qui est extrêmement important, c'est qu'il y aura de la transparence là où il y avait de l'obscurité entre Européens. On nous raconte tous les jours que l'Europe est faite, qu'elle est tyrannique, que Bruxelles, ceci, cela. En réalité, une institution comme la Banque Centrale Européenne, par exemple, ne sait pas combien d'euros sont détenus par les Chinois, ne sait pas où en sont les emprunts, combien d'obligations des différents États européens sont détenus par la Chine. Les pays ne savent pas ce que les autres font ou alors l'apprennent par la bande et ont peur, tout simplement, de la concurrence les uns des autres. Cette réglementation, au minimum, mettra de la lumière, du soleil, de la clarté. Elle n'est pas complètement contraignante, elle est même peu contraignante, parce que les pays, pour l'instant, n'en veulent pas. C'est le grand débat européen, transféré à Bruxelles. Très peu de gens aiment ça, et quand ils l'aiment, c'est souvent en parole.
On poursuivra dans la deuxième partie de l'émission sur ces diversités, ces oppositions entre Européens et géopolitiques. Nous retrouvons nos invités, François Gaudement et Jean-François Desmélio, après le journal. À tout de suite.
Géopolitique. Marie-France Chatin.
Géopolitique, regard sur les tensions entre les États-Unis et la Chine sur le plan commercial et leur impact sur l'Europe. Nous retrouvons nos invités. François Godemont, historien, professeur des universités à Sciences Po, directeur du programme Chine du think tank European Council on Foreign Relations, co-auteur avec Abigail Vasselier de La Chine à nos portes, une stratégie pour l'Europe aux éditions Odile Jacob. Et Jean-François Dimilio, président d'Asia Centre et directeur de publication d'Asia Trends, dont le dernier numéro se penche sur les dynamiques et tensions commerciales en Asie. Quelles sont finalement les responsabilités des décideurs politiques européens dans ce qui se passe aujourd'hui en Europe, dans la relation de l'Union européenne avec la Chine? La question est évoquée dans votre ouvrage, François Godemont, dans lequel il est dit, et vous affirmez que c'est une découverte de votre enquête, que, et je vous cite, « la Chine a rarement besoin de faire beaucoup d'efforts lorsqu'il s'agit d'impliquer les riches et puissants d'Europe dans ses activités. Les politiciens, les intermédiaires commerciaux, les représentants du gouvernement ou encore les responsables locaux qui n'ont pas la moindre idée de sa façon de négocier sont très enclins à faire des offres à la Chine. » Fin de citation. Un commentaire.
C'est simple, il y a deux composantes. Il y a le mirage chinois, les extraordinaires excédents, les 4 000 milliards de dollars de réserves, ils sont plus près de 3 000 aujourd'hui, mais enfin, c'est beaucoup. La route de la soie, un slogan qui est un slogan européen en réalité, c'est pas chinois la route de la soie, mais retourner, renvoyer vers nous, c'est une attraction extraordinaire, l'idée que la Chine va débarquer avec ses excédents. Donc ça, je dirais, plus vous êtes naïf dans la classe politique, plus vous êtes d'ailleurs des élus locaux par opposition à des élus nationaux, plus vous êtes inexpérimenté, plus vous voudriez bien être le monsieur Chine, celui qui a décroché quelque chose, et celui qui sait s'y prendre avec la Chine. Et savoir s'y prendre avec la Chine, pour beaucoup d'hommes politiques, c'est faire comme avec les lecteurs, c'est-à-dire le flatter, être poli, et espérer être payé en retour. Donc ça, c'est la première strate qui est importante. La deuxième, disons les choses, c'est une stratégie d'influence qui passe en tous les cas par les anciens ou futurs hommes politiques et sur lesquels il faut s'interroger. Que tant d'anciens premiers ministres dans des grandes démocraties fassent des déclarations aussi favorables à la Chine. Allez, on va épargner la France puisqu'on est à RFI et on va citer la déclaration récente de Gerhard Schröder, qui est peut-être un habitué de la Russie aussi, qui a expliqué qu'on avait tout faux sur le Xinjiang et qu'il n'a rien vu de la répression et des camps de rééducation au Xinjiang, par exemple. Qu'est-ce qu'en sait Schröder aujourd'hui et quels sont les bénéfices qu'il en tire? C'est un exemple, mais il y en a, et dans notre pays aussi, on observe ce phénomène. Et là, c'est différent de la méthode russe. Je vais m'arrêter assez vite. Mais la méthode russe, c'est la manipulation en grand, y compris la manipulation des électeurs, le trucage, les fausses informations, etc. La méthode chinoise, c'est de faire appel au portefeuille, de faire appel à l'intérêt. Tout simplement, c'est une méthode sonnante et trébuchante. Si la Chine, si une très grande entreprise chinoise s'est fait prendre la main dans le sac pour avoir corrompu, et de façon démontrée, deux présidents successifs de l'Assemblée générale des Nations unies, c'est quand même qu'il y a là-dedans une sorte de tactique habituelle, si vous voulez. Et nous sommes tous concernés en réalité, nos lois éthiques, nos lois d'évitement, ce qui est permis à d'anciens responsables gouvernementaux.
Alors, savoir s'y prendre avec la Chine, Jean-François Dimiglio, il y a une question qui se pose, c'est celle de la clairvoyance de l'Europe vis-à-vis des capacités et des intentions de la Chine. Je pense à cette loi de 2017, loi chinoise, qui établit un devoir de coopération et de collaboration des entreprises chinoises dans le cadre d'un effort national pour le renseignement. Finalement, on n'est pas assez au courant de la façon et du modus operandi de la Chine, aussi bien, en tout cas à l'extérieur.
On est dans deux univers différents. On a d'un côté un univers qui est d'une certaine façon cohérent, je dirais pas monolithique, la Chine n'est pas monolithique, mais c'est un univers cohérent où l'intérêt national est effectivement très intégré, puis en plus l'intérêt national c'est l'intérêt d'un seul pays avec ses ressortissants, 92 ou 95% de Han effectivement, en face d'une conscience européenne qui est forcément beaucoup plus éclatée. Donc ça c'est la différence entre un système cohérent et puis ce que je serais tenté aussi d'appeler non pas un système incohérent, non pas non plus un système schizophrénique, mais un système qui, moi, me frappe beaucoup. J'étais donc dans une petite fête franco-chinoise qui est organisée par le comité France-Chine. Et effectivement, on a cette célébration de réussite indéniable entre la France et la Chine. Et puis, vous avez autour de la table, pendant de grands discours qui se tiennent, des responsables, de très hauts responsables d'entreprises qui se lâchent et qui vous disent en privé des choses qu'ils ne disent pas forcément en public. Donc cette schizophrénie, elle est quand même extrêmement troublante. ça veut dire qu'on n'est pas arrivé à faire la synthèse. Alors la synthèse n'est pas un très joli mot, c'est pas quelque chose qui est vraiment percutant, mais je crois que l'étape suivante, si j'ai pas d'indication à donner à François Gadement, mais une fois qu'on a mis en évidence tout ce qui est fait du côté de la Chine, je pense que l'étape suivante, c'est les recommandations. Il y a des recommandations, bien sûr, dans le bouquin, mais il faut que l'on trouve une ligne cohérente qui nous permette de surmonter cette schizophrénie, le fait que, à la fois, on a envie de faire du business, et puis, on a peur des conséquences de ce business.
Alors, je voudrais revenir sur ce que vous évoquiez à l'instant, la schizophrénie. Qu'est-ce qui se dit en privé, qui ne se dit pas en public, Jean-François Demilio?
Il est évident qu'une entreprise de haute technologie française, elle a envie de faire du business en Chine, et je pense qu'on ne saurait pas la dissuader de faire du business en Chine, mais elle est aussi très consciente des risques qu'elle prend. Est-ce qu'elle se couvre suffisamment contre ces risques? Est-ce qu'elle arrive à trouver le bon discours entre ce que l'on dit lorsqu'on signe un compromis, et puis ce que l'on dit quand on est à Paris? Non, personne n'arrive à trouver le bon langage, parce qu'encore une fois, nos forces ne sont pas suffisamment mises en évidence.
Alors, vous évoquez aussi les forces et les faiblesses de la Chine. Si on devait nommer les faiblesses, François Gadement, ce serait quoi?
Une certaine rigidité dans l'innovation, donc beaucoup de ressources qui y sont consacrées, beaucoup de brevets déposés, mais il y a eu un brain drain à l'envers vers la Chine, il y a maintenant plutôt un brain drain pour partir. Et quand la Chine réussit très fort, elle réussit très fort, c'est souvent dans des créneaux assez limité. C'est comme des créneaux commerciaux, si vous voulez. Ça ne veut pas dire que l'innovation se déplace sur tout le front où c'est possible. Donc on en revient un peu de l'affirmation, si vous voulez, c'est ce qu'on en parlait au début, que la Chine est forcément en avance ou même au niveau des États-Unis. C'est pas vrai. Par contre, elle est merveilleusement organisée commercialement, de façon mercantiliste, pour tirer parti des zones où elle a cette avance. Donc ça, c'est important. La deuxième chose, c'est qu'elle ne peut pas supporter économiquement ce que serait la décompression, la dépressurisation d'une économie libérale. Sa monnaie doit rester contrôlée, elle doit utiliser les réserves de pays étrangers en quantité, en réalité elle est plus ou moins indexée sur le dollar, par exemple, et donc ça n'est pas vrai que les autres sont plus dépendants d'elle qu'elle ne serait dépendante des autres. De fait, quand vous avez une stratégie où vous fondez votre développement sur la prise de part mercantile, si vous voulez, vous êtes dépendant de si les autres vous laissent faire ou pas. C'est d'où la vulnérabilité avec Trump.
C'est de la bonne dialectique. C'est de la dialectique de maître esclave. Et au-delà de la devise, il y a une réforme, me semble-t-il, qui a été reportée, que la Chine devrait faire, mais que les problèmes qu'elle a avec Trump l'empêcheront probablement de faire aussi vite que, y compris le nouveau gouverneur de la Banque centrale aimerait faire, c'est la réforme du système bancaire. On a un système bancaire qui fonctionne, et donc qui est quand même le poumon de l'économie chinoise, qui fonctionne selon des règles aberrantes, c'est-à-dire qu'on imprime de la monnaie pour pouvoir financer l'économie. Et on n'a pas d'autres instruments pour financer l'économie, ou en tout cas très peu. La bourse, on a vu ce que ça donnait, y compris après l'inclusion des bourses chinoises dans l'index international. C'est pas un poumon de l'économie chinoise. Le marché obligataire n'est pas un poumon de l'économie chinoise. Le seul poumon, c'est ce poumon qui est complètement hermétique, qui est le système bancaire, qu'on ne veut pas réformer et qui est potentiellement générateur de mauvais crédits, donc de faiblesse pour l'économie chinoise, dès qu'il est trop sollicité, comme on l'a vu dans la période de 2008-2010.
Alors, on va parler bien sûr de l'attitude que l'Europe devrait avoir et devrait adopter face à la Chine, mais avant cela, puisque vous parlez de réforme, je voudrais qu'on parle deux secondes de l'OMC. François Gadement, la Chine profite de son statut de pays en voie de développement à l'OMC. À quand, et elle en profite parce qu'elle en tire beaucoup d'avantages, à quand la fin de ce statut?
Pour la Chine, jamais. Elle vient de publier un petit livre blanc, parce que vous savez qu'elle a, en partie pour faire plaisir aux Européens, accepté l'idée d'un groupe de travail avec les Européens sur la réforme de l'OMC. Ce qui est aussi, pour les Européens, la tentative pour retenir Donald Trump devant le gouffre, si j'ose dire, pour faire en sorte qu'il proteste à l'intérieur de l'OMC au lieu de la détruire. Le problème, c'est que quand vous lisez le petit livre blanc qui vient de sortir, c'est entièrement axé sur la position défensive. Ça essaye de faire une espèce de front uni avec d'autres économies en développement. Donc on parle d'économies qui ont 1 500 dollars de revenus. La Chine approche de 12 000. Elle a dépassé plusieurs économies européennes. Et ce, pour 1 400 millions d'habitants. Donc on est complètement à contre-temps. Mais l'OMC telle qu'elle existe, c'est la Bible pour la Chine. Cette position, c'est d'ailleurs là aussi la faute des négociateurs. On pouvait le dire en 2001, qu'une négociation qui prévoyait un statut sans révision du statut, sans imaginer un seul instant que la Chine puisse être autre chose qu'une économie en développement, c'est une absurdité. Ou alors on pariait sur l'échec. Et c'est pas ce qui s'est produit.
Jean-François Demilio, sur l'OMC?
D'abord, qu'est-ce que l'OMC aujourd'hui ? L'OMC soi-même s'est affaibli. Je pense que le premier à en faire le constat, c'est Pascal Lamy, alors qu'il était encore dans les derniers mois de son mandat. Et puis, qu'est-ce que serait l'OMC avec ce groupe de travail dont François Godman parlait ? Sinon, encore une autre institution qui existe, dans laquelle la Chine intervient comme une sorte de game changer. L'exemple qui peut être parlant, c'est celui du FMI et de l'inclusion de la devise chinoise dans le panier de devises du DTS. La devise chinoise intervient dans le... On accepte que la devise chinoise entre dans le panier de devises, c'est symbolique, c'est pas fondamental, mais dans le DTS, normalement, vous avez des devises convertibles, totalement convertibles. Eh bien, il se trouve que les Chinois ne savaient pas que c'était impossible, ils l'ont fait, et Madame Lagarde a dit que c'était possible. Donc, réforme de l'OMC, oui. Participation de la Chine à l'OMC, je pense qu'il y a, encore une fois, il y a toutes sortes de nuances dans la pensée politique et la pensée économique chinoise, même si ça tend dans la même direction. Il y a probablement des gens qui sont plus enclins au multilatéralisme et peut-être à une réforme de l'OMC. Mais une réforme de l'OMC, ça voudra dire certainement accepter un certain nombre de standards chinois. Pour l'instant, on a très peu de preuves de l'ouverture des marchés chinois.
François Godman,
oui,
vous souhaitez rajouter quelque chose ?
Je ne suis pas tout à fait d'accord parce que je pense que le FMI, c'est un club... Ça n'a pas beaucoup de portée pratique, ça sert aux banquiers centraux à discuter. Et puis, quand il y a vraiment un drame dans un pays en voie de développement, ça intervient en imposant une discipline. L'OMC, c'est vraiment le régulateur du commerce. C'est les mêmes choses que depuis le milieu du 19e siècle, quand les premières négociations internationales ont eu lieu. Il y a deux choses. Il y a la clause de la nation la plus favorisée, c'est-à-dire vous donnerez pas... Vous ne refuserez pas à M. Tartampion ce que vous avez accordé à M. Dupont, ce qui était une manière d'obliger à mutualiser les concessions. Puis c'est l'arbitrage. L'arbitrage, il est mis en péril par Donald Trump, qui ne veut plus nommer de juge, qui ne laisse plus passer les juges, donc il y a un péril qui arrive rapidement. Et la clause de la nation la plus favorisée, elle est un peu ridiculisée par la Chine qui s'abrite justement sur ce statut particulier. La réforme, ça veut dire deux choses. Ça veut dire rendre plus rapide les décisions, les sentences et tout le processus arbitral de l'OMC, y compris dans des domaines où il n'existait pratiquement pas. Par exemple, les subventions qui sont devenues fondamentales pour l'économie internationale. L'échange de marchandises, si vous voulez, c'est en quelque sorte l'arbre qui cache la forêt. Aujourd'hui, les subventions, les investissements, c'est plus important. Et deuxièmement, en effet, faire accepter à la Chine que son statut lors de l'admission était transitoire et qu'elle doit obéir aux mêmes règles que tout le monde. Je n'ai pas d'illusion qu'elle va le faire en une seule fois, effectivement, mais c'est un objectif. Et comme elle est l'économie au monde qui bénéficie le plus de ce système de l'OMC, on peut penser que ce serait une perte pour elle de le voir détruit.
On parle même de droits devenus outranciers par rapport aux autres économies développées. Alors, rapidement, les moyens dont dispose l'Europe pour exister face à la Chine, vous en citez un certain nombre et on en a déjà parlé, c'est la mise en place d'un système de filtrage des investissements à l'échelle européenne. Il me semble que la machine est lancée, Jean-François Dimilio. Bon, mettre un terme au statut d'économie en développement auquel se raccroche la Chine, ça c'est une autre chose et vous venez d'en parler, François Godman. Remplacer la dispersion européenne par une stratégie commune. Est-ce qu'on peut dire finalement que la Chine qui cherche à diviser l'Europe en négociant pays par pays, est-ce que c'est efficace ? Autre élément, c'est préserver nos canaux de communication avec les États-Unis en dépit de relations parfois houleuses. Alors des commentaires chacun sur ces...
On a inventé une formule que nos interlocuteurs chinois ont le bon goût d'apprécier, qui est de dire finalement... il faut tout simplement qu'on mette carte sur table, il faut que vous nous disiez quel type d'Europe vous préférez, et nous, on vous dira, en contrepartie, quel type de Chine on préfère. Et peut-être qu'à partir de cet échange de réponses, on va pouvoir progresser. Donc je pense que, bien sûr, se rapprocher des États-Unis, c'est très bien, mais on ne fera pas l'économie de mettre carte sur table avec la Chine en disant « voilà ce qu'on veut ». Que ce soit en groupe, que ce soit en ordre dispersé, mais à un moment, il faut effectivement que nous lui disions ça. Je crois qu'on ne le lui dit pas. On publie beaucoup, c'est très bien, on publie entre nous, mais il faut qu'on leur dise dans les yeux, si j'ose dire. Aujourd'hui, les seuls qui sont capables de parler à la Chine, ce sont les États-Unis. Si Trump n'avait pas haussé le ton, on aurait continué à accepter cet échange asymétrique. Et puis, avec ses électeurs, il s'est réveillé et il a haussé le ton. Je pense que, bien sûr, il faut s'aligner sur les États-Unis, mais on sait que cet alignement va avoir des limites, tout simplement parce que de façon unilatérale, les États-Unis, Trump peuvent y mettre un terme. Je pense qu'on ne peut pas faire l'économie de parler à la Chine et lui dire ce qu'on veut voir.
François Godemont.
La différence entre Trump et nous, c'est qu'on peut parler fermement d'un bout à l'autre d'une table. Trump renverse la table, ce qui n'est pas la même chose. Moi, j'ai pas mal de considérations pour Jean-Claude Juncker, par exemple, en plus ancien Premier ministre du Luxembourg, qui est un pays ultralibéral sur le plan financier, dont les intérêts sont un peu différents de la moyenne des Européens, et qui néanmoins a mené ce que j'appellerais le tournant réaliste au niveau de l'Union Européenne. Donc il est là. Il n'est pas là au niveau des États, parce que les États se défient les uns des autres, font la concurrence aux uns des autres. Dire aux Européens qu'il faut parler d'une seule voix, c'est bien beau, mais dans la pratique, c'est plus difficile. Je crois que le véritable argument qui va provoquer une vraie coalition européenne, c'est le comportement de la Chine elle-même. C'est le fait qu'elle négocie finalement très peu avec l'Union européenne en tant que telle. Elle parle, se rencontre, mais au fond, ça avance très très rarement. Elle a un tel pragmatisme qu'elle préfère les pays. Fondamentalement, elle a beaucoup plus peur de Donald Trump que de nous, et par conséquent, elle réserve l'essentiel de ces annonces aux États-Unis. Je ne parle pas de profession de foi vide sur le multilatéralisme, ce qui ne sont pas là pour les mêmes raisons. Et donc, même des économies fortes, par exemple l'économie allemande, les responsables politiques ont en gros viré de bord, les responsables économiques sont à mi-chemin, mais c'est une attitude complètement différente d'il y a 5 ans. Les pays d'Europe du Nord sont un peu moins directement visés par la Chine pour l'instant, un peu plus offensifs sur le marché chinois, donc encore un peu loin de cette prise de conscience. Quant aux pays d'Europe centrale et de l'Est, qui ont cru qu'ils pouvaient avoir leur affaire avec la route de la soie, ils se sont rendus compte que les investissements venaient pas chez eux, que ça ne marchait pas. Donc, si vous voulez, les limites de la stratégie chinoise, le fait que c'est souvent une stratégie en fait d'intérêt immédiat, provoque une réaction.
Alors, limite de la stratégie chinoise. Est-ce que vous êtes vous-même, chacun, optimiste sur une stratégie pour l'Europe dans sa relation avec la Chine?
On a des exemples.
Jean-François Dimelio.
C'est un exemple qui est assez atypique, qui me semble illustratif aussi. La route de la soie, on s'en méfie beaucoup. On voit bien l'instrument géopolitique que ça peut être. On n'a pas signé, vous l'avez dit, l'Espagne ne va pas signer. Mais on a des entreprises qui sont suffisamment fortes pour arriver à jouer ce fameux win-win dont les Chinois nous serinent depuis longtemps, mais dont on sait bien qu'il est en fait biaisé. On a Total qui a son projet en Russie, que pour toutes sortes de raisons, les financiers européens ne veulent pas soutenir parce que effectivement c'est en Russie. Et bien ils trouvent les banques chinoises. Je ne pense pas que Total, à un moment ou à un autre, vu la position de force dans laquelle ils sont dans un certain nombre de marchés pétroliers, puisse tomber sous une influence ou sous une collusion avec le projet de route de la soie. Donc encore une fois, si on a des projets forts, j'ai l'impression que ça peut marcher, mais il y en a très peu.
François Godemont, très rapidement.
C'est le pouvoir des règles. Il peut paraître absurde, mais pour des pays de l'Union européenne ou associés à l'Union européenne, qui ont besoin des subventions européennes, qui ont besoin de l'accès au marché européen, qui voudraient une intégration plus forte, ce sont des blagues de dire que les gens ne veulent pas rejoindre l'Europe, ils en rêvent. Continuer à suivre ça, c'est important et c'est dissuasif. Autrement dit, la Chine, localement, sur le moment, évidemment, est tentatrice, et il y a des gens qui signent des deals, mais dans le plus long terme, elle peut pas l'emporter entièrement. J'ai une espèce de règle de proximité. Plus vous êtes près de l'Europe, pour ne pas parler des pays qui sont dans l'Europe, plus à un moment donné vous faites vos comptes. Et tant que l'Europe est solide, et elle la reste économiquement, monétairement, il faut le souligner, hein, même dans notre pays qui est en crise, vous avez 80% d'opinion publique qui est favorable à l'euro, par exemple. Les Italiens peuvent raconter tout ce qu'ils veulent, ils veulent pas quitter l'euro non plus. Pour prendre les exemples les plus gênants actuellement, ça, c'est une vraie force. C'est à la fois la force du marché et la force des règles dont les citoyens sont finalement persuadés à certains niveaux, même quand ils deviennent sceptiques et cyniques.
Merci. C'est la fin de Géopolitique. Merci à nos invités. François Godemont, historien, professeur des universités à Sciences Po, directeur du programme Chine du think tank European Council on Foreign Relations, co-auteur avec Abigail Vasselier de La Chine à nos portes, une stratégie pour l'Europe aux éditions Odile Jacob, et Jean-François Dimelio, président d'Asia Centre et directeur de publication d'Asia Asia Trends, dont le dernier numéro se penche sur les dynamiques et tensions commerciales en Asie. Géopolitique était signé Marie-France Chatin, Véronique Durand et Pauline Leduc. À très bientôt.